Vous écoutez
RMC. RMC, le vestiaire des GG.
C'est vrai qu'on a continué la discussion ensemble, mais c'était intéressant d'avoir sur ce registre-là. Mais dans le vestiaire, tu sais, Renaud, on aime bien parler à travers vos expériences de sportifs, à travers les anecdotes que vous avez vécues pour comprendre un peu ce qui se passe dans la tête de nos sportifs que l'on a actuellement. Là, on voulait parler aujourd'hui de ces victoires qui changent la vie, comme celle de Johann Zarco il y a un an, évidemment, sur le circuit du Mans, 71 ans après la dernière victoire. Toi, à quel point, je sais pas, quelle est la victoire qui a changé ta vie, tiens? Le titre olympique, oui. Ou le record du monde? Qu'est-ce que tu mets au-dessus?
Pour moi, c'est le titre olympique qui a été vraiment le premier changement. Et qui a fait d'ailleurs que le record du monde est arrivé derrière. Mais ça change tout parce que on passe de j'avais été champion d'Europe déjà deux fois avant, mais on passe dans une autre dimension parce qu'on est avec tous les sports que tout le monde nous regarde pendant deux semaines et c'est clairement ouais après le titre olympique où tu sens que la dimension n'est plus la même, que le regard des gens n'est plus le même.
Tu sens que tu t'appartiens plus tout à fait aussi, que t'appartiens un peu à tout le monde dans ces moments-là. C'est ce que vit Johann, je pense, hein, Zarco. On l'a vu sur le circuit depuis le début du week-end. Il vient, tout le monde a envie de le toucher, tout le monde a envie de le voir. C'est l'ami, la famille de tout le monde, quoi. Il y a quelque chose comme ça, on rentre un peu dans le salon des fans.
Je pense qu'on ouvre la dernière porte du sport français où on rentre dans une autre catégorie et où alors après c'est toujours la différence, c'est que je me suis toujours appartenu à moi-même. Tout a été enfin c'est moi qui prenais mes choix, etc. Mais c'est sûr que le regard des gens, enfin il y en a, j'ai des anecdotes comme ça, mais j'ai une fois à l'entraînement un mec qui là il me dit, il m'encourage et il me dit si tu le fais pas pour toi, fais-le pour la France.
On fait pas la pression, hein.
Quelques semaines avant, je sais plus, les championnats d'Europe ou championnats du monde. Tu vois que c'est quelque chose de différent. Alors moi, j'ai toujours fait pour moi, donc ça m'a pas posé de problème. Mais tu sens que voilà, t'as ce côté français, enfin nation, qui en prend une couche supplémentaire, quoi.
Marc, toi, quand tu gagnes Paris-Roubaix, t'as gagné Paris-Roubaix deux fois, on rappelle. Non, mais encore aujourd'hui. C'est des choses qui te définissent, en fait. C'est des moments qui changent ta vie.
Marc Madiot, double vainqueur de Paris-Roubaix. On te présente souvent comme
oui,
ça.
Oui, alors, changer la vie, je dirais pas que ça change la vie. Mais ça t'accompagne la vie. La vie quotidienne, j'ai la vie quotidienne de monsieur tout le monde. Je vis comme tout le monde. Donc, ça change pas fondamentalement. On dit ça change la vie. C'est un terme un peu exagéré. Par contre, le fait d'avoir gagné des titres, que ce soit à Roubaix ou des Jeux ou un titre de champion du monde ou autre, ça t'accompagne toute ta vie. Comme je dis souvent en plaisantant, Roubaix, je l'emmènerai avec moi au cimetière. Et je sais que quand on célébrera mes obsèques, on fera référence à Paris-Roubaix.
Ouais. On mettra des pavés, on mettra pas des
genres de
fleurs.
Tout, mais après,
ah
mais
ça va être fun. Hein.
Après, la vie change pas fondamentalement.
Non mais Fred, finaliste des Jeux, médaillé d'argent à Sydney. Est-ce que t'en étais conscient, en fait? Est-ce qu'on est conscient sur le moment, en fait?
Alors sur le moment, moi pas du tout. En fait, c'est comme une compétition un peu comme les autres, mis à part que tu rencontrais d'autres athlètes. En fait, moi quand je pense aux Jeux Olympiques de Sydney, c'est quand j'ai mangé en face de Mohamed Ali qui m'impressionne le plus réellement, parce que c'est quelque chose qui était incroyable, qui était fantastique, et tu côtoies des athlètes incroyables. Bon, j'ai même eu la chance de côtoyer David Douillet. Alors pour vous dire à quel point c'était incroyable.
Référence.
Ouais, c'est ça.
Et c'est belle
vrai,
personne.
C'est vrai que c'était un vrai gringalet à l'époque, toujours. D'ailleurs, mais je sais pas si on se rend compte. En plus, nous, c'est sur une défaite, c'est un peu particulier. Mais c'est vrai que
oui, mais en France, on adore les losers.
Oui, mais en plus, nous gagner en basket,
c'est quasiment impossible.
Team USA, pour nous, c'était une montagne impossible à gravir. En tous les cas, à l'époque là, et c'est vrai que chaque fois que je me déplace maintenant, effectivement, je suis comme Marc. Ben, je pense que ça va me suivre jusqu'à la tombe. On dit médaille olympique aux Jeux Olympiques de Sydney. Ça faisait 56 ans que c'était pas arrivé en France qu'en basket on ait une médaille olympique. Et donc d'un seul coup, est rentré chez les gens.
Tu t'en rends compte plus aujourd'hui encore.
Mais oui, parce que les gens m'en parlent beaucoup. Moi, je sais même pas où est la médaille, parce que comme vous savez, je suis pas très matérialiste, je sais pas du tout où elle est.
Renaud, elle est dans sa casquette là. On va être toujours avec.
Non, ce que je veux dire, c'est que pour moi, ça n'a pas d'importance. Mais je me rends compte que 26 ans après, parfois quand je prends le métro, des gens m'arrêtent en me disant c'est génial, c'était popé à ciné, c'était incroyable, merci pour ce que vous avez fait pour le basket à l'époque, parce que on se rend compte que maintenant le basket fonctionne très bien, on vient d'enchaîner deux médailles d'argent olympiques, sauf que ça faisait énormément de temps qu'on l'avait pas fait, et d'un seul coup on a mis le basket sur la carte mondiale, parce que les Jeux Olympiques c'est 1 milliard de personnes, c'est des gens qui regardent tout le temps, en plus nous on finit, c'est quasiment une des dernières épreuves, donc tout le monde se rappelle du basket, tout le monde a vu le basket. Et c'est vrai que tu peux aller partout dans le monde.
Mais ce qui peut être intéressant aussi, c'est que parce que effectivement ça vous définit vos victoires, vos carrières en général. Et c'est vrai que le danger qu'il peut y avoir aussi, c'est que on vit dans la nostalgie. On vit dans la nostalgie peut-être de ces grandes victoires. Non, mais je sais pas à quel point. Déjà un truc très simple. Est-ce que ça vous est arrivé de revoir vos matchs, vos victoires, vos moments? Non, mais ça arrive ou pas?
Très rarement de
revoir ces moments. Ou est-ce que c'est imposé à vous parce que vous participez à une interview à quel Roubaix, point ça nous accompagne en fait.
Le deuxième Paris-Roubaix que je gagne, je ne l'ai revu qu'au moment du Covid.
Ah oui.
Pourquoi? Oui, parce qu'ils ont rediffusé.
Parce qu'ils rediffusaient. Et donc je me suis retrouvé dans.
Attends,
le canapé.
Mais c'est moi ça.
Ça a été un moment spécial parce que je me suis retrouvé dans le canapé avec mon fils.
Ah oui.
Tiens, c'est toi, tu regardes, c'est moi.
Ah non, mais là, du coup, c'est hyper intéressant.
C'est génial, ça. Perturbant.
Ah ouais?
Ouais.
C'est émouvant.
Ça m'a perturbé parce que, en fait, mon fils, il avait dû lire ou apprendre que j'avais gagné Paris-Roubaix.
Tu l'as eu tard, hein, il n'était pas né
Il n'était pas né à l'époque. Et c'est la première fois qu'on s'est retrouvé devant, pendant une heure, à regarder Paris-Roubaix 91, et il était avec moi dans le canapé.
Et il disait quoi? Il disait « Allez, Mathieu !»
Non, non, il regardait les images et il me regardait.
C'est vrai? C'est un peu comme regarder Titanic, tu connais la fin déjà.
Attends, il te regardait et toi t'étais comment en regardant ça?
Eh ben, c'est quand même très spécial.
Ah ouais?
Très, très spécial.
Très fierté quand même.
Les poils.
Ouais.
Ah ouais, tu vois l'émotion dans le regard.
Et j'avais jamais revu en fait. Et
moi j'ai hâte de vivre ça. Je comprends. Revoir ces matchs, ça n'a aucun intérêt tout seul. Mais par contre, moi j'ai hâte que mes filles grandissent pour qu'on puisse les regarder ensemble.
Mais Renaud, t'as déjà revu les finales des jeux
et au bout du compte, c'est ma femme qui nous regardait les deux. Elle regardait le mari et le fils.
Elle vous a pas filmé.
Je me rappelle plus.
Non mais Renaud, quel rapport avec les images, avec les moments, tu revois parfois?
Oui, oui.
À un moment de blues, tu dis attends, mais j'ai gagné un truc quand même.
Non, moi, il y a deux façons de le regarder. Il y a le côté un peu, comme on disait, nostalgie, où tu refais un peu les moments, etc. Tu revis l'émotion. Et puis, il y a aussi le côté un peu technique. Moi, je sais que le saut des jeux, je l'ai regardé, mais des centaines de fois, juste parce que dans les mois, années qui ont suivi, c'était aussi un moment clé d'inspiration où, avant un grand championnat, avant un gros meeting que j'allais faire, je me remettais ce saut-là parce que je savais que c'était... qu'il fallait que je refasse la même chose ou pas loin. Donc du coup tu le regardes pas de la même manière. Par contre, quand tu te retrouves, je sais pas, invité à une cérémonie, etc., forcément ils vont mettre un de ces sauts là en avant, et là c'est pas du tout le même regard. C'est parce que derrière, après, les gens ils vont tous te dire oh, je me souviens, j'étais à tel endroit quand je l'ai vu, c'était dingue. Et ça, en fait, c'est ça te donne des émotions qui sont différentes. Et je rejoins un peu Marc d'ailleurs. Alors, j'étais pas dans mon canapé, mais j'ai mes enfants, j'ai ma fille qui va avoir 9 ans, donc qui commence à bien comprendre les choses. Et quand elle se retrouve avec moi et qu'on va lui parler de ça, ou elle va le voir, tu regardes dans les yeux de ton enfant, et là, en fait, ça prend une dimension qui est encore différente et qui est extraordinaire. Et donc, ouais, franchement, je me cache pas le saut, je le revois à minima une fois par an, mais quand même un peu plus.
Il y a aussi ce record du monde que tu bats. On l'a vécu, nous, de manière particulière sur RMC, parce que Nico Jamin était sur place à Donetsk. Alors là, il n'y avait pas grand monde. Hein. Toi, tu avais décidé de tenter de battre ce record. Et on l'a vécu en direct sur RMC. Ça a été un moment extraordinaire.
Ah, c'était fou,
de commentateur sur place. Et on était pendant les Jeux Olympiques de Sochi.
Ouais, puis c'était le week-end où il y avait le brouillard, il se passait plus rien.
Ouais, c'est ça.
Et d'ailleurs, moi, c'était assez marrant, c'est que quand je suis rentré, les gens ils pensaient que j'avais été champion olympique à Sochi. Enfin, ils font la bascade, etc. En plus, on était à Donetsk en Ukraine, donc c'était pas très loin. C'était assez marrant. Et puis Nico, je crois qu'il a toujours pas récupéré sa voix depuis.
Là, mais Marc, ça te faisait réagir ce que disait Renaud.
Oui, parce que par exemple, Paris-Roubaix, il y a des images qui durent 10-15 secondes après le secteur d'Arenberg, pas toujours en 91, où je recommande à mes coureurs qui vont faire Paris-Roubaix d'aller regarder cette dizaine de secondes d'image après le secteur de du Carrefour de l'Art, pardon, par Arenberg, oui, du Carrefour de l'Art. Parce que, en fait, ce que j'essaie toujours de leur transmettre, c'est que, à Paris-Roubaix, quand on est coureur cycliste, le plus important, c'est pas soi-même. C'est le vélo sur lequel on évolue. Vous pouvez être le meilleur, le plus fort, le plus grand. Si vous cassez votre vélo, et on l'a vu cette année avec Van der Poel, il a cassé, il a pas gagné. Donc si vous voulez gagner Paris-Roubaix, faut d'abord penser à son vélo. Prends soin de ton vélo. Et je les renvoie à cette petite séquence d'une dizaine de secondes où en fait je leur dis, vous voyez là les gars, je suis à bloc, je pense pas à moi, je pense à mon vélo. Et l'image le montre.
T'as les mêmes rapports avec tes perches, voilà. Renaud?
Bah, pareil, hein, la perche, si tu la casses, si tu l'abîmes ou quoi, ou t'as pas confiance en elle,
t'es mort.
C'est mort. Donc, il faut être capable de se projeter et de tout lui donner.
Non, mais...
Et, ouais, c'est le rapport avec le matériel. Enfin, on est dans des sports. Là, on est en moto, c'est pareil. C'est, t'as les motos. Si t'es pas capable de te livrer à elle à 100%, bah, t'arriveras à rien, quoi.
Tiens, on est en 2014, on était à Sochi et il s'est passé ça.
La course d'élan de Renaud Lavillenie, le sprint, la vitesse du champion olympique français à 6m16, pourquoi pas? Ah! Record du monde! Record du monde! Renaud Lavillenie est le nouveau recordman du monde du saut à la perche! 6m16! Sergueï Boubka est debout! L'ovation hystérique, les mains sur la tête, il est croqui!
Il est groggy, hein, mais tout le monde était groggy. C'est vrai qu'en plus, ça fait ça sous les yeux de Boubka, quand même. Non, mais
ouais, pas mal.
Chez lui,
pas
quoi. Mal. Et
bah, tu vois, j'avais rien demandé. Hein, bim, encore une fois, je le récupère.
Non, mais voilà, c'est des moments qui t'accompagnent pour toujours. Bon, Renaud, merci beaucoup. On se revoit bientôt à la perche, évidemment.
Ouais, on se revoit cet été. Ouais. J'attaque première compétition dans 2 semaines, là, en Pologne. Et voilà, objectif, préparer les championnats de France qui ont lieu fin juillet à Albi pour tenter de décrocher la qualif pour les championnats d'Europe qui ont lieu le 15 août. Donc voilà, après la belle 8e place que j'ai eue l'été dernier au championnat du monde, l'objectif c'est de continuer sur la lancée. Donc voilà, il n'y a pas encore
de date de garder
jusqu'à
cette...
2028.
Et ben c'est qui
jusqu'à là où je peux. Donc
si ça se passe
tant
bien,
que mon corps m'amène, j'y vais.
Tant que t'es bon, tant que tu performes, tant que tu nous fais rêver, moi.
Non, mais en fait,
l'objectif, oui, 2028, il est dans un coin de la tête. Et donc, oui. Mais voilà, faut pas penser à 2028 sans préparer 26 et puis après 27 et puis.
Oui, mais je veux dire, c'est vers quoi tu voudrais tendre?
Jusque même 2029, 2030, si jamais, sait jamais. Mais bon, pour l'instant,
c'est... Quand tu n'es pas trop, parce que tu veux faire de la moto...
Il veut pas gagner Longo, en fait.
À 70 ans, c'est plus dur. Hein.
Non, mais c'est vrai que j'ai la chance de pouvoir faire ce que j'aime. Le corps, pour l'instant, me suit. Et donc, voilà, je continue. Les perfs sont encore au rendez-vous. Donc, voilà, je sais qu'après la perche, je pourrais plus en faire à plus haut niveau, donc faut que j'aille jusqu'au bout. Puis c'est ce que j'aime tous les jours, donc je vais pas me plaindre. Hein.
T'as vu que Mando Duplantis maintenant, quand il est à Monaco, il dit tiens les gars, je suis dans le coin, vous pouvez pas quand même faire un petit concours pour moi? Non, il est là.
Ouais, hein. C'est logique, hein, c'est de bonne guerre, mais c'est cool parce que
Il met la perche partout.
Exactement, ouais. Ça nous met vraiment la perche masculine au plus haut niveau et puis partout avec une visibilité qui est dingue. Donc nous on en profite, hein, on a des super conditions. C'est cool.
Monter à 6m40, tu penses, Mando?
De toute façon, il a montré qu'il n'avait pas de limite. Donc, bon, pour l'instant, il y a 31. On sait que ça va y aller par centimètre. Moi, j'avais prédit aux alentours de entre 33 et 35. Donc, bon, il va s'en rapprocher, il va les faire, j'en suis quasiment sûr. Après, il est encore jeune, je pense qu'il a encore 2-3 années devant lui pour être vraiment performant. Mais de toute façon, si lui, il pense qu'il peut le faire, j'ai aucun doute sur le résultat, donc on peut lui faire confiance. Jusqu'à présent, il a tout éclaté. Faut savourer. C'est un moment qui est quand même assez extraordinaire, quoi.
Bah non, mais quand même complètement irréel. Hein. Là, pour le coup, on a réécouté ton 6m16 à l'époque. Ça nous avait. Non, mais notre cerveau avait explosé. On se dit, mais qu'est-ce que c'est que ce délire? Là, maintenant, en train de se poser les questions à 6m40, c'est n'importe quoi. Pour mon Duplantis, qui a 26 ans, hein, je crois encore. Donc, ouais. il a la vie devant lui. Et toi aussi, on a bien compris. Parce que tu vas sauter jusqu'à la mort. Bon, merci Renaud d'avoir été avec nous. Tiens, avant de sortir, tu peux essayer de sauter au-dessus de Fred Weiss. Je pense que c'est le plus grand défi de ta vie. Pour essayer de rejoindre les tribus. Merci Renaud, évidemment. Bah, kiff, hein. Kiff en moto, kiff à la perche. J'ai l'impression que c'est le sens de la vie, finalement, et de ce que tu as envie de faire. Et c'est ça qui est génial de pouvoir transmettre à nos auditeurs et auditrices.